Radio Spirale.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Jean Royer. J'ai le plaisir de vous présenter le programme de cette soirée au nom de l'Académie des lettres du Québec, présidée par M. Émile Martel, et au nom des organisateurs de la 43e rencontre, Mme Danielle Fournier et M. Laurier Lacroix. L'Académie des lettres est la première institution littéraire du Québec. Fondée en 1944, elle a longtemps joué le rôle d'un futur ministère de la Culture par ses diverses activités. Elle réunit des écrivains élus par leur père et dont les œuvres comptent parmi les plus marquantes de leur époque. Poètes, romanciers, romancières, essayistes, historiens, philosophes, sociologues et autres intellectuels entretiennent une réflexion sur la place de la littérature dans notre société. Vous pouvez d'ailleurs voir qui sont ces académiciens en fréquentant notre site Internet. L'Académie attribue par jury 3 prix littéraires annuels. Le prix Alain Grandbois pour la poésie, le prix Ringuet pour le roman, le prix Victor Barbeau pour l'essai, en plus d'organiser un colloque à l'automne et la rencontre québécoise internationale des écrivains au printemps. Cette dernière activité accueille, à côté d'auteurs québécois, des écrivains venus d'autres littératures, et ces échanges sur différents thèmes fondent une ouverture nécessaire et la relation vitale de notre littérature avec les autres littératures du monde. La rencontre a pour thème cette année l'événement comme prétexte. Elle se passe en atelier entre écrivains, mais elle comporte aussi deux volets publics, donc la conférence inaugurale donnée hier par M. Hubert Haddad à la Maison des écrivains et la lecture de ce soir. Vous entendrez ce soir les écrivains Paul de Brancion, Michael Gluck, Hubert Haddad, Dafne Katunarich, Alvaro Uribe et Yam Yared. L'auteur, compositeur et interprète Thomas Hellman, qui a mis en musique avec élégance et sensibilité les poèmes de Roland Giguère, participe aussi à cette soirée. Après le récital, vous pourrez prendre connaissance des livres des auteurs invités à la 43e rencontre et vous les procurer à la table tenue par la librairie Le Port de Tête. Notre premier invité est né à Paris et vit à Montpellier. Michael Gluck est écrivain, poète, dramaturge, traducteur. Il a été enseignant, directeur de théâtre, lecteur et traducteur dans l'édition, principalement chez Flammarion et aux éditions Jean-Michel Place. On lui doit plusieurs dizaines d'ouvrages. Il vient de faire paraître chez Lanskin un nouveau titre intitulé « Exil, exit, Bérénice ». Il a publié un important ensemble de livres chez Lamourier sous le titre « Dans la suite des jours plus une nuit ». Parmi ses autres éditeurs comptent Le Passe du Vent, Précaré, Hervé Bougel, Les Cahiers du Museur, Jacques Brémond et Babel pour le théâtre. Sa poésie a été traduite en plusieurs langues. Michael Gluck se consacre entièrement à l'écriture depuis une vingtaine d'années. Lecture, performance, conférences, sessions d'écriture théâtrale aux universités de Lyon et de Bordeaux, participation à divers festivals, dont celui d'Avignon. Il a aussi réalisé de multiples collaborations dans les domaines du théâtre, de la danse, des marionnettes, des arts plastiques, du cinéma et de la vidéo. Boursier deux fois du Centre national des lettres, il a été lauréat du prix des créateurs en 1981 et du prix Antonin Artaud en 2004. Il vous dira que ce qu'il écrit est un lieu de frottement entre sa petite histoire personnelle et singulière et la violence de la grande histoire. Son engagement dans le langage s'inscrit contre cette violence du monde. Michael Gluck.
Bonsoir. Je vais lire en fait deux poèmes extraits d'un livre qui s'appelle Rouge, qui est publié aux éditions La Passe du Vent, qui est un éditeur lyonnais. Le premier poème est un poème dont je lirai seulement la première partie, qui est consacrée à ma rencontre avec l'œuvre de Rimbaud. Vous entendrez à quel âge j'ai rencontré Rimbaud. Et puis, c'est lié aussi à des moments de la grande histoire. Donc, les choses se croisent. Le deuxième poème que je lirai est consacré... Enfin, son titre est assez explicite. Hein. Le texte s'appelle « D'une Jérusalem absente ». Et vous entendrez, outre ma propre voix, des voix de poètes israéliens, de poètes palestiniens, de poètes juifs, de poètes arabes. Voilà. Donc je commence par le texte de Rimbaud, consacré à Rimbaud, qui s'appelle « Le pain trempé de pluie ». Et la lune brûle et hurle. Marche, sous mes yeux marche, de gauche à droite, avance d'un mot sur l'autre, avance sur l'azur. Par les sentiers traverse la couverture d'un livre de poche. Arthur Rimbaud, j'ai 14 ans. Le livre entre mes mains, j'avance, trébuche, avance et marche. Il court devant moi, sur les semelles du passant, j'apprends à lire le vent cyclone au fond des Mazagrans. Il ne se retourne pas, il court, égrène un soleil arriéré. J'ai 14 ans, le livre brise mes doigts, crispés sur le crayon et la rime. Écoutez, dit-il, soyez aux odeurs que chaque livre renferme. Celui-là s'ouvre, ouvre les mains, redonne aux doigts brisés vigueur et doute, écoutez, odeur du bleu d'hystérie, odeur des sainfoins et des villes, odeur des voyelles, voyou, voyelle, Arthur Rimbaud, hors du sillon, délire. Mon père, qui m'offrit ce livre, celui-là, à couverture bleue, ne l'avait pas lu. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi, pourquoi ce livre à moi offert le jour de mes 14 ans. Pourquoi ? Il ne savait pas qu'il déposait entre mes mains une bombe à retardement contre lui-même, contre moi-même. Ne savait pas, je crois. Marche sous mes yeux, marche, de gauche à droite, avance d'un mot sur l'autre. Ne se retourne pas, parle, trou la nuit de sel noir. Ne se retourne pas, par les soirs bleus d'été, parle. Rimbaud m'a dit, tu traînes la patte, va, arrache les amarres. Rimbaud m'a dit, avance, enfant des courants d'air, dans les banlieues des bidonvilles. En ces années-là, le dormeur du Val a la tête dans les sables d'Algérie. La non-pâle Ophélia est jetée dans la Seine depuis un pont à Paris. Et quelle commune rêvais-je alors dans les plis noirs et rouges au mur des fédérés ? J'ai 14 ans, je ne peux plus lire comme la veille, ne peux plus écrire comme la veille, poèmes, lettres s'impriment, je sais par cœur des pages entières et l'encre se dépose, pénètre profonde, ravage, la surface de la mémoire oublie quelque chose. D'Alcide dans ce temps-là bava sur mes bouquets de fleurs plutôt mal fagotés. Oh, les abécédaires rongés. Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu? En tout cas, rien des apparences actuelles. Le livre a la violence des séparations salutaires. Rien, rien. J'ai 14 ans, je refais de mémoire le dessin de mémoire signé P.V. J'ai 14 ans, je ne peux plus voir comme la veille. La cité devient falaise, mètre cube de calcaire sur mètre cube de calcaire dans les carrières près des bidonvilles de Nanterre. croissent les champignons nocturnes, et plus loin, la pluie mitraille les toits de tôle ondulés. Voyelle, O, A, consonne, S. Les mains de Jeanne-Marie apaisent les plaies de Delphine. Était-ce elle ? Ce prénom me revient d'une enfant, de son visage dans les journaux du temps, après un attentat. Voyelle, O, A, consonne, S, lame de rasoir éverpillée au coin des affiches, tache d'encre sur un côté de ce visage, la vie censurée, ou thèse de Rorschach, Arthur Rimbaud, contresigne, le manifeste des 121. Que lis-tu ? Demande le père. Je marche. Je lis en marchant. En marchant, je tiens entre mes mains une bombe à désamorcer le réel. Violence contre violence et l'amour. U vers des abécédaires. Quand sera brisé l'infini servage de la femme. Je marche. Je lis en marchant. En marchant, je tiens entre mes mains le livre qui me rend à l'invention de la langue, autre, autre langue, langue étrangère pour étranger. Alors Rimbaud me dit, c'est l'aimer, ni tourmentante, ni tourmentée, l'aimer. Les colères invitent au sabotage des heures. Je lis en marchant, je tiens son livre entre mes mains, cendre et salpêtre. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Ô radiotélescope levé vers les lointains, vers la musique des sphères, quel Pythagore s'éveille au chant du Wasserfall, tandis que l'impératrice Eugénie prend ses eaux à Biarritz. Et le général ? Que fait le général ? Tandis qu'Arthur descend les escaliers du métro Charonne, ô bouche d'ombre de l'histoire, en ce temps-là tout se mêle. Je traverse Berlin le 13 août 1961. J'ai dans la poche le livre à couverture bleue. J'ai Rimbaud dans mes poches trouées. Je lis, je vis, je lis, je dis. Il dit, quand je crois dire, je cours derrière lui vers les bannières que déchirent les colères errantes. Autres illuminations, champignons atomiques, charniers de l'histoire que de comètes, des guerres coloniales. J'ai de mes ancêtres non gaulois l'œil bleu, un profil à ne pas battre la monnaie, je cours derrière l'homme qui marche, bronze auquel sont pendus les haillons d'une fugue, je crie, j'écris, je titube. D'une Jérusalem absente. Je vous écris d'une Jérusalem absente, d'Yerushalayim, d'Al-Quds. Je vous écris d'une Jérusalem inversée qui peuple mes nuits. Je vous écris sous la croisée des voies, dans l'insomnie de la blessure. J'écoute, j'écris. La main écrit, le sang dans la main écrit. Le sang à l'écoute des voix, j'écris, malgré tout, contre tout, j'écris pour. Je vous écris d'un lointain titubant entre les noms. J'ai des yeux sans image, des yeux tournés vers l'intérieur des visages perdus, des yeux retournés vers l'énigme des voix, malgré tout, contre tout, qui se lève. Pour. En ce printemps, qui donc se lèvera et dira à la poussière, tu es homme, et à l'homme tu retourneras. Yehuda Amichai. Je vous écris de l'entre-deux des draps, un drap pour nos amours, un drap pour nos angoisses. Mon lit est une tente plantée dans le désert. Les voix y sont lumières, lampes et chandeliers, poèmes, malgré tout, contre tout, debout, debout. Le poème est dans l'entre-deux, et il peut, dessin d'une jeune fille éclairer les nuits, d'une pomme éclairer deux corps, et par le cri du gardénia, restituer une patrie. Mahmoud Darwish. Je vous écris d'une ville qui n'est pas encore, d'une ville qui n'est plus, d'une ville à bâtir dans les lignes de vie écorchées de nos paumes. Je vous écris dans les nœuds des poèmes. Je vous écris d'une ville que je ne connais pas. Écris donc, tant que tu en auras la force. Ton écriture ne sera jamais un tison de haine alimentant le brasier des haines. Abdelatif Lahabi. Des enfants dans les rues jonglent. Sous la peau d'orange, on entend la chute d'une colombe. Des faucons s'envolent dans la rumeur des fontaines. Je n'écris pas, j'écoute, j'écoute. Je laisse en moi monter vos voix. J'exprimerai un flot. D'amour, je parle, de deux âmes sœurs qui se déchirent et s'entre-dévorent en éparpillant leurs trésors. Ibrahim Sousse. Je vous écris d'une Jérusalem absente, d'Irushalayim d'Al-Quds. Je vous écris d'une Jérusalem dont les noms chantent. Des enfants dans les rues jonglent. Je jongle dans les rues d'une ville à venir. Je jongle avec vos livres, malgré tout, contre tout, et pour. Après la pierre, après le feu, redécouvrons le miracle du commencement. Michel Écart Elial. Les lèvres des enfants jonglent avec les noms qui tournent les pages de vos livres. Les lèvres des enfants épellent le vent. Qui occupe, dit l'un, l'assiette de mon frère? Qui occupe son pain? Que dis-tu, dit l'autre, et il se frappe le front. Personne, ni même l'ennemi, n'a le droit de laisser l'enfant hors de sa maison. Mahmoud Darwish. Que dis-tu? Dit l'autre. Que dis-tu? Dit l'un. Il y a des comptines dans le compte des morts. Qui occupe, dit l'un, l'assiette de mon frère? Qui occupe son pain? As-tu pouvoir de prolonger la vie? Demandait un sage à un autre sage. J'ai pouvoir de prolonger l'espoir, lui répondit celui-ci. Edmond Jabès. Je vous écris un peu, rien qu'un peu, contre le silence qui mure les noms, Jérusalem. Al-Quds, Yerushalayim.
Merci.
Merci, Michael. Accueillons maintenant un des écrivains marquants du Mexique, Alvaro Uribe, vient de remporter le Primo Javier puis là où tu y as la plus prestigieuse récompense littéraire attribuée à un auteur publié au Mexique. Né en 1953 dans la ville de Mexico, il y a fait ses études et il a enseigné avant d'entrer dans la diplomatie de son pays. Il a été en poste à l'ambassade du Mexique en France de 1977 à 1985, puis attaché culturel au Nicaragua et nommé de nouveau en France comme conseiller culturel jusqu'en 1993. En tant qu'écrivain et intellectuel, il a aussi fait partie de nombreuses institutions de la culture mexicaine. Il est présentement conseiller éditorial des presses de l'UNAM, l'Université autonome de Mexico, avec laquelle ont coédité un certain temps des maisons d'édition québécoises. Álvaro Uribe a publié dans les principales revues mexicaines, dans des revues sud-américaines, nord-américaines, autant qu'européennes. Son œuvre de romancier et d'essayiste a été traduite en plusieurs langues. Il est entre autres l'auteur de Topos, des proses brèves, publié en 80. Son roman, La Loteria de San Jorge, paraît en 95. Ses essais littéraires, La Otramidad, sont traduits en Belgique sous le titre L'autre moitié, Borges, Cortázar, Rulfo, en 2003. Il a fait paraître en France en 2009 Dossier de l'attentat, dont on a fait le film El Atentado. Il a publié en 2011 un nouveau roman, Morir más de una vez, et en 2012 ses essais littéraires, Leo A. Borges. Écoutons Álvaro Uribe.
Bonsoir. Je vais lire, j'ai choisi de lire les débuts, quelques pages de trois essais qui composent mon livre L'autre moitié, pour diverses raisons. L'une, c'est parce que c'est très facile à porter, donc je ne voulais pas porter d'autre chose. Et l'autre, c'est parce que je trouve qu'il est difficile, très très difficile de lire des morceaux d'un roman, parce qu'alors il faut se mettre à raconter le roman afin qu'on comprenne. Donc je ne voulais pas vous gâcher la possibilité de lire mes romans complets, donc... Donc je vais lire quelques morceaux. Bon, le livre s'appelle donc L'autre moitié. Je vais commencer par la première page du premier essai consacré à Borges. Ça s'appelle Nostalgie de Borges. Certains souvenirs me consolent de l'idée que j'ai déjà 60 et quelques années. Les plus universels ou les moins solipsistes correspond au jour lointain de 1966 où le premier satellite artificiel destiné au commerce de l'information relia les téléspectateurs de toute la planète dans une émission interminable au cours de laquelle, parmi les nombreux signaux que chaque pays transmettait aux autres afin d'apporter sa note caractéristique à ce concert sans pile des nations, nous, les adolescents du monde entier, pûmes voir et entendre au même moment, comme si nous nous trouvions ensemble dans un fauteuil gigantesque, les Beatles chantaient « All You Need Is Love ». Cette transmission inaugurale en direct fut la première expérience œcuménique que l'humanité subit simultanément et de façon vérifiable. Moi, j'étais là, ou plutôt, j'y étais alors. Je conserve encore ma dévotion panthéiste pour l'oiseau matinal qui m'offrit le miracle de me croire partie de quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est... Je pense maintenant à l'essai consacré à Cortázar. Si vous n'avez pas lu Cortázar, vous êtes vraiment perdu. Je le déplore énormément. Et si vous l'avez lu, vous allez comprendre certaines citations que cet essai fait. Ça s'appelle « Le fameux Cronope est mort ». Je suis l'un de ces milliers de Latino-Américains nés à la fin des années 40 ou au début des années 50, qui ne pourraient pas s'évoquer leur adolescence sans faire largement référence à l'œuvre de Julio Cortázar. Beaucoup d'entre nous, me semble-t-il, ont découvert la magie de la littérature dans les pages accueillantes de Hermann Hesse. J'en soupçonne plus d'un d'avoir conçu l'ambition de devenir écrivain dans le commerce de l'un ou l'autre volume de Lawrence Durrell. Mais cette expérience n'est devenue collective, c'est-à-dire véritablement initiatique, que lorsqu'arriva entre nos mains un roman éblouissant, écrit dans un espagnol plus jeune que n'importe lequel de ses lecteurs. C'est à Paris que je lus Marel pour la première fois. Nous étions en 1971 et j'avais 18 ans. Une jeune fille d'à peine 23 ans, qui me semblait alors une femme accomplie, me donna un exemplaire fatigué du livre et me fit promettre de ne pas chercher à la revoir avant d'avoir terminé l'ouvrage. Ai-je besoin de dire qu'elle aimait à se faire appeler la magicienne et que je n'ai mis que quelques jours à la revoir? Dès cet instant, Paris cessa d'être une ville simplement belle et simplement française. Par le miracle de la lecture, Paris devint ma ville, la nôtre, un lieu peuplé de gens plus ou moins hostiles et ignorant que la lingua franca des grands boulevards et des petites rues que je traversais avec une indifférence étudiée n'était pas la fameuse machine à fabriquer de la symétrie qu'institua Racine et que Flaubert universalisa, non plus que le dialecte plébéien peaufiné par Raymond Queneau et qui imitait sans le savoir les habitués de bistrot, mais une version sud-américaine de l'espagnol qui prononçait à voix haute, capturait les rythmes du jazz et susurrait dans l'intimité, tendait à s'estomper dans un réseau de non-sens suggestifs que son auteur avait baptisé du nom exact de Gliglico. Dans aucune des salles de concert improvisées où il était possible de se protéger de l'hiver, ne jouaient des musiciens aussi radicalement désastreux et attendrissants que la pianiste Berthe Trépas. Mais cela ne me démoralisa pas. Je ne fus pas non plus découragé parce que, au lieu du feu sourd qui consumait les âmes sans espoir de salut, la rue de la Huchette ne m'offrait que les flammes crépitantes sur lesquelles grillaient les odorants sandwichs grecs. Je ne fus même pas déçu de ce que le pont des Arts, où un illustre hasard réunissait les pas d'Oliveira et de la magicienne, eût été endommagé par une crue de la Seine et fût fermé tout le temps de son interminable réparation. Obstinément, je continuais à explorer ces paris. Je continuais à explorer ces paris avares qui me refusaient les aventures promises par Cortázar. Marel et ensuite 62, Maquette à monter, furent mon Baedeker pataphysique, mon guide des touristes littéraires qui ne put jamais trouver les monuments existentiels indiqués sur les textes. Ce n'est qu'à mon retour au Mexique, après avoir vécu un an en France, que je pensais que l'important avait été de chercher. Je ne me souviens pas pourquoi, à cette époque, je lus dans une traduction quelques fragments de la Conférence des oiseaux, un long récit écrit en vers au début du XIIIe siècle par le persan Farid ud-Din Attar. Ce poème est une fable mystique qui raconte l'avènement du simorgue, le dieu des oiseaux. De sa trame infinie, je ne retiens que la plume céleste qui tombe un beau jour sur la terre. Les oiseaux interprètent raisonnablement l'événement comme un miracle, comme un signal envoyé par le mythique simorgue. De toutes parts, des milliers d'oiseaux entreprennent un vol à sa recherche. Les plus faibles ou les moins pieux se donnent pour vaincus. Les autres doivent parcourir des distances immenses, semées d'embûches qui mettent leur foi à rude épreuve. Il ne reste en fin de compte que 30 oiseaux pèlerins qui ne cessent de voler sans percevoir le moindre indice de leur dieu. À bout de force, ils croient enfin l'apercevoir au fond d'une caverne où ils sont péniblement arrivés. C'est sans aucun doute l'oiseau divin qu'ils poursuivaient, mais c'est aussi un miroir qui leur renvoie leurs images réunies. Les 30 oiseaux comprennent alors que tous ensemble, ils sont le simorgue. J'ignore si Olaf Stapledon s'est inspiré de cette idée de Attar pour écrire Les Faiseurs d'étoiles, un roman de science-fiction où Dieu finit par s'identifier à la somme de tous les esprits qui, à un moment donné de l'univers, s'efforcent de le connaître. Je sais qu'à une échelle beaucoup plus modeste, la Conférence des oiseaux m'a servi pour comprendre ce qui m'était arrivé au cours de ma première année à Paris. Nous tous, qui cherchions d'être Oliveira ou la magicienne, l'étions de plein droit. Nous qui cherchions à vivre dans l'inaccessible ville de Marel et ensuite 62 maquettes à monter, nous y étions de fait. Cortázar était notre simorgue. Et puis je vais finir avec un morceau du texte sur Rulfo. J'ai eu la chance, non pas de connaître Juan Rulfo, mais de le fréquenter en diverses occasions. La première eut lieu au milieu des années 1970, quand j'étais étudiant et lui déjà une célébrité revêche. Presque tous les après-midi, Rulfo se rendait dans une librairie-café au sud de Mexico pour tuer le temps et tromper les silences avec d'autres écrivains. Je ne sais plus qui m'invita à sa table, ni comment on me persuada d'accepter. Je me souviens seulement d'avoir à peine ouvert la bouche. J'eus beau faire des efforts, je ne trouvais pas ce que pouvait dire quelqu'un comme moi, un enthousiaste qui par indécision ou témérité voulait écrire, à quelqu'un comme lui, un maître qui avait choisi de se taire. Pour être fidèle à ce choix, ou par simple paresse, à aucun moment, Rulfo ne s'est permis de faire référence à son œuvre. Il ne dédaigna pas, en revanche, de faire quelques commentaires malicieux sur les livres d'autres auteurs dont discutaient les convives, presque tous jeunes, mais il passa le plus clair de son temps à écouter ce qu'il savait à dire. Je les révise épisodiquement en France au début des années 1980. J'étais alors employé subalterne à l'ambassade du Mexique et l'une de mes obligations consistait à guider les personnalités qui voyageaient en mission officielle. Un jour, je dus recevoir un groupe d'écrivains mexicains de tous âges, sexes et importances. Parmi les spectacles auxquels j'assistais, j'en retiens un qui ne s'était plus vu au Mexique depuis bien des années. Rulfo et Arreola, jumeaux opposés, comparaissaient ensemble devant le public. Je me souviens comment, après un élogieux et interminable discours de présentation en français, Rulfo empoigna le micro, se racla la gorge et dit dans un allemand acceptable « Ich spreche kein Französisch ». Une autre fois, je passais les prendre dans une voiture empruntée pour l'amener à un dîner. Comme je l'aidais à descendre, je remarquais que la partie postérieure de son pantalon était couverte d'une substance vaguement séminale qui s'avéra, après examen, être de la cire. Pour des raisons que je n'ai jamais réussi à élucider, l'ami qui m'avait prêté la voiture transportait des cierges que la chaleur avait fait fondre. Rulfo, dont l'entière vanité résidait dans les vêtements qu'il portait, dut endurer cette humiliation. Cependant, c'était un homme compréhensif et il ne me fit pas payer ma maladresse. La troisième ou quatrième fois que j'allais l'atteindre à Orly ou à Roissy, il me dit que j'étais le fantôme des aéroports. J'aime à croire que cette caractérisation, venant de quelqu'un qui en savait long sur l'autre monde, était un compliment. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de le voir, il était assis à une table immense d'un restaurant à la fois parisien et Tex-Mex. Une quinzaine de personnes l'entouraient, parmi lesquelles je reconnus des membres de sa famille. Il régnait une ambiance générale de réjouissance forcée et j'en déduis que c'était l'anniversaire de Rulfo. Pourtant, il s'isolait des autres derrière un journal grand ouvert et entre ses lèvres serrées fumait une cigarette. À cette époque, Rulfo ne m'intimidait plus comme avant, mais je ne voulus pas m'immiscer dans une réunion manifestement ennuyeuse et je m'éclipsais sans le saluer. Quand j'appris sa mort en janvier 1986, me revint l'image désormais définitive d'un homme solitaire parmi les siens, duquel échappait seulement, comme des idées trop subtiles pour être réduites à l'expression, quelques volutes de fumée bleue. Merci.
Merci, M. Uribe, de ces portraits. Et particulièrement de Julio Cortázar, qui a été un invité remarqué de la rencontre dans les années 80. Yam Yared est née à Beyrouth, où elle a étudié la sociologie à l'Université Saint-Joseph. Poète, nouvelliste, romancière, lauréate de la Bourse del Duca, décernée par l'Académie française, elle a publié plusieurs ouvrages. Son roman, intitulé « L'armoire des ombres », a reçu le prix France-Liban 2007. Son roman « Sous la tonnelle » a été finaliste du prix de l'Institut du monde arabe et du prix des cinq continents. « La malédiction », son récent roman paru en 2012, traite de l'infanticide, du matriarcat, invisible dans des sociétés essentiellement masculines et du pouvoir dominateur des mères. La malédiction est le récit d'une Médée moderne au cœur du Moyen-Orient. Ce recueil de poésie ont valu à Yam Yared de nombreuses distinctions, des invitations à participer à divers festivals au Portugal, au Mexique, en Suède et au Québec, à Trois-Rivières, entre autres manifestations. Présidente du PEN du Liban, elle est engagée pour la liberté d'expression et sur les enjeux de l'humanitaire, notamment en ce qui concerne la question des disparus dans la récente guerre civile libanaise. Son œuvre littéraire exigeante et attentive au monde questionne le corps, la guerre et l'éthique. Yam Yared a fait paraître son plus récent livre, Esthétique de la prédation, en 2013, à Montréal, aux éditions Mémoires d'Encrier. Dans ce livre bouleversant, le poème se fait colère contre la violence et la mécanique froide du langage. L'être poétique confronte le cynisme contemporain, les dictatures visibles et invisibles. Le poème saura-t-il être l'ultime esthétique?
Merci, merci d'être présent et à l'écoute. Donc, je vais lire des poèmes une petite sélection de poèmes du recueil Esthétique de la prédation. La solitude, cette garce, je me cogne aux parois de ma peau. Peut-être qu'en tendant le bras, l'océan ne sera plus qu'une idée où pissent des poissons morts. Peut-être qu'en fermant les yeux, nos sexes bâtiront des royaumes où la lumière est aussi tranchante que la mort. Tu te demandes ce que j'ai fait de ton absence. Je l'ai léché, je l'ai roulé, je l'ai fumé, je l'ai fourré, et quand j'ai cru la vaincre, elle m'a pénétré. Ton absence est ta féminité. En voulant me vêtir d'un troisième sexe, j'ai roulé ma peau autour du cou, et j'ai couru, farci d'une solitude à deux. Au barrage, un soldat s'est esclaffé. Vous croyez au bonheur? Le vide seul nous console. J'ai refusé de m'arrêter. Il a pressé sur la détente, même une balle. S'éprend de liberté. Dans nos corps, le vide est gratuit, TVA comprise. Avec des codes-barres de viande hachée, ils ont scanné nos libertés. Dessus, ils ont marqué « à surveiller, toujours ». J'ai ouvert grand le corps. Je leur ai dit d'y introduire le feu, quelque chose, n'importe, pourvu que se taise le vide. Avant de passer la douane, j'ai tout avalé. Ma digestion est ma prison. L'OTAN est arrivé sur son cheval blanc. L'humanité est une princesse si laide qu'il faut des cannibales pour prévoir des forages dans nos mutilations. Dis-moi, comment cracher dans ta face sans oublier de reconnaître ton visage? Comment t'encercler de barbelés et te dire qu'à l'intérieur seulement il t'est permis de mourir. La paix fait le trottoir. Elle s'est faite belle, la pute. Elle s'est faite pute, la paix. Pour 10 cadavres, dit-elle, la paix est gratuite. Avec nos restes, j'ai fait un collier de moignons suffisamment long pour faire le tour du monde. À l'extrémité du pu, j'ai posé mes lèvres. J'ai soufflé. L'amour et rester coincé dans un doigt. Dans nos vessies, rien que des chiffres, des taux boursiers, des titres d'actualité, l'autopsie des putes a prouvé que l'enfer est un code génétique sexuellement transmissible. J'ai planté une orchidée dans une capote usagée. Elle a poussé en démesure avec la haine séchée. Nu et dépouillé, m'a dit l'arbre. Je me suis rincé la bouche avec le poumon que tu as donné à mon ombre. L'inadéquation, c'est ce qui reste sur nos visages. À force de fixer l'eau, mon nez s'est détaché. Nos reflets ont des ailes visibles uniquement depuis leur perdition. Lorsque j'ai cru caresser ton pied, C'était le mien que je mutilais. J'ai perdu la perception du feu. Invoque ce que tu veux, mais prends-moi avant la race des mutants. Nous naissons étrangers à nos postures de plaignants. Ne reconnais-tu pas les éclopés de la beauté? Le territoire est une nostalgie. L'appartenance, une gazelle malade. Nous chargeons nos fusils avec nos mutismes. Les rats qui sortent des caniveaux sont des humains sans poumons. Dans la rue, ils courent après leurs organes et croisent des soldats jouant aux billes avec leurs yeux. Ne jetez rien. Après les massacres, recyclez tout. Nos squelettes serviront de matraque, nos peaux, nos sacs à muscles. Libérez-nous du nerf. La liberté n'attend personne en position fœtale. Tu veux ta liberté, fils de chien, furent les derniers mots entendus. Dans nos veines, il n'y a pas de sang, il y a des horizons tordus à mains nues. L'amour aussi a les mains nues. Dis-moi, à quelle potence furent lynchés les nuages? Pour les chiens, fils d'homme est une insulte. Un jour, la terre reconnaîtra ses chiens. Même si l'amnésie et mémoire oublient que tu as vécu, oublient tes bourreaux, leurs insultes poussant sur les arbres, l'enfer n'est pas une prophétie. Ici, le bonheur est promis aux yeux cousus. N'ouvre plus ton regard, laisse la terre t'aveugler de ses doigts d'étrangleuse, amante plus clémente que la furie d'un homme. Oublie tes murs, ici les grimpants rient. Oublie ta peau, ici le sang est un mirage. La trahison est une langue morte. La distance a rétréci le sang. Au départ, il y eut une obéissance. Et le jasmin blanc de l'enfance, il y eut soie à arpenter sur des clous, vu du corps, le ciel n'est rien qu'une perspective. Je n'ai pu gravir ton corps à cause du bruit de la télé. Dis-moi qui nous remboursera d'exister. Le ciel est passé si près du rire que j'ai cru à l'enfer comme on croit à l'humour. Ils nous ont alignés. Moignons tournés vers la Mecque, Jérusalem, Dera, Mistrata, nos cadavres, nos anecdotes. J'ai ri à la chute du mur, j'ai ri face aux détecteurs de mensonges, j'ai ri lorsqu'ils ont électrifié l'amour, lorsqu'ils ont édifié la honte avec des mains coagulées. J'ai ri parce que mon sanglot ne ressemblait plus à lui-même et que j'ai cru pouvoir choisir mon suicide. Le langage est un coït. J'ai cru tromper la mort. L'obscurité m'a traversée. Je ne t'ai pas tué. Je t'ai aimé. Vois-tu la différence? Merci.
Trajectoire obscure des moments passés qui battent de l'air. des souvenirs pénibles. Sur quelques images froissées, déchirées, il faudra bientôt dessiner d'autres images. Au reflet plus humain, trajectoire obscure des moments passés qui battent de l'air.
Quelques années, on m'a demandé de préparer un spectacle qui explorerait les liens entre la musique et la littérature pour la Place des Arts ici à Montréal. Et j'avais choisi tous les auteurs sur lesquels je voulais travailler. Il y avait Beckett, il y avait Samuel Archibald, Patrice Desbiens, il y avait Eduardo Galeano, auteur que j'aime beaucoup et qu'on vient de perdre il y a quelques jours. Et tout était prêt. Et voilà qu'une semaine avant de monter sur scène, je vais voir un ami à moi, un vieux monsieur, très vieux, 90 ans, passé depuis longtemps, un homme qui a beaucoup voyagé, beaucoup lu. Et à l'heure de l'apéro, il vient me voir avec un recueil de poésie. C'était L'âge de la parole de Roland Géguer. Et il me dit, c'est parfait pour ton projet, c'est très musical. Or, ce vieux monsieur est sourd. Et ce soir-là, je suis rentré à la maison avec le recueil. J'ai ouvert au hasard sur une page et je commençais à lire d'abord dans ma tête et ensuite à haute voix. Et puis il y avait une guitare à côté. Je commençais à lire et puis ma lecture se transformait en chant et j'entendais de la musique. Alors j'ai appuyé « record » sur une petite machine enregistreuse et puis j'ai commencé à jouer. Comme ça, il a chanté des mélodies, et je suis passé comme ça d'une page à l'autre. Et ce soir-là est né en fait un album. Et la première musique que j'ai entendue ce soir-là, c'est celle-ci. Pourtant, d'aiguilles brisées, pas une goutte de sang, tant de soir et tant de nuit, et tant d'ennui sans qu'un seul cheveu ne vienne rougir la vitre. Tant de rideaux déchirés, tant de radeaux coulés, pour un seul survivant à peine vivant, et tant d'ardeur et tant de cris pour une oreille qui n'écoute plus, tant de vie pour un mort, tant de mots pour un mur, tant de vagues qui n'ont rien lavé. tant de mains qui n'ont rien serré, tant de vies perdues, tant de veines éclatées, tant de coups reçus, tant de regards lancés, tant de larmes brisées, tant de pas, tant de pas, tant de paroles, tant de temps pour un si petit jour, tant de temps et pourtant. N'avons pas changé. Pourtant, d'aiguilles brisées, pas une goutte de sang, tant de soirs et tant de nuits, et tant d'ennuis, tant de temps, et pourtant, nous n'avons pas changé.
Merci Thomas Edman. Hubert Haddad est né à Tunis en 47, poète, auteur d'essais sur l'art et la littérature, par ailleurs nouvelliste et romancier. Cet écrivain explore toutes les voies de l'imaginaire et nous implique passionnément dans son engagement d'intellectuel et d'artiste. Il publie principalement chez Ulma et plusieurs de ses livres poursuivent leur existence dans les grandes collections de poche, Folio, Pocket et le livre de poche. Les titres de ses œuvres font déjà rêver à la littérature. L'Univers, roman dictionnaire. Le Nouveau magasin d'écriture, essai encyclopédique. Géométrie d'un rêve. Nouvelles du jour et de la nuit. 10 recueils en 2 coffrets chez Ulma. Opium Poppé. Enfin, Le peintre d'éventail et les haïkus du peintre d'éventail. Prix Louis Guyot. Un autre ouvrage, Palestine, lui a valu le prix des 5 continents de la francophonie 2007 et le prix Renaud d'Aupoche 2009. En 2013, Hubert Haddad recevait le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre. Enfin, on lui décernait l'an dernier le prix Mallarmé pour La Verseuse du matin, très beau recueil publié chez Dumerché. Sa poésie se situe au bord de l'ombre, comme il écrit, et met en jeu ses forces incompréhensibles, ses étrangetés qui nous conduisent jusque dans la nuit du sens, telle qu'évoquée par André Breton. Chez Hubert Haddad, la poésie s'invite aussi dans la prose. Le poème n'est pas seul.
Je vais vous lire tout ça. Ce n'est pas la saison des tomates, il faudra lancer des pierres. Peut-être que je vais vous lire plutôt ça, et puis c'est tout. Minuit moins quart. Quel est ton plus beau souvenir, lui demandai-je, à minuit moins quart, alors qu'elle somnolait dans sa robe sale, ses deux visages superposés selon l'hypothèse quantique. Vous ne m'avez pas vu dans l'herbe ni dans l'onde. Le soleil est si bleu que la nuit recommence. La terre entière se couvre de mille sources éclatantes. Est-ce que le mot vide est vide, comme mon âme? Est-ce que le mot temps me dure si longtemps? Pleine, douce, pleine. Sa mémoire bascule dans le garage du jardin. À minuit moins quart, femme avec laquelle j'ai vécu. Forêt de nuit d'hiver en exquise périphérie. Une île vivante rêvait dans l'obscurité, l'île des mots perdus, l'île qu'on lisait comme un livre, avec ses fleurs, ses perroquets, ses scaphandriers au cœur de plomb. Maintenant, je vais plutôt vers le centre. Des souvenirs lui viennent qu'elle n'a pas vécu ou qu'elle a oublié. Je broie l'ombre des amants dans un feu de fusain. Peintre aveugle qui collectionne les épaves en rêvant d'une flamme d'or. À minuit moins quart, ma mémoire est ton visage retourné. Ensevelissez-moi avec mes pères dans la caverne double. Les paupières sont des insectes qui se brûlent les ailes. Tous les mots connus s'incurvent en vérité dans un dialogue secret entre l'homme loup et son ange à minuit moins quart. Poursuivie par le vent, la voyageuse contemple son passé à travers ses phalanges. Dans la piscine de cristal, elle plonge, elle a plongé en grand secret. Elle se métamorphose, il lui semble rajeunir, devenir une autre femme. Des souvenirs lui viennent qu'elle n'a pas vécu ou qu'elle a oublié, comme si une autre existence lui était donnée, comme si elle entrait dans le corps et les pensées d'une autre, plus jeune chaque nuit, plus jeune, plus libre, différente, comme si chaque nuit vraiment elle devenait une autre. Des nids et ténébris. Qui sont les assassins? Ils ont fait des drapeaux avec des suaires. Paix est trésor qu'on ne peut trop louer. Parfois l'on voit un loup déguisé en loup. Elle a voulu mourir ou plutôt s'ajourer. Le cheval foudroyé des amours passe et repasse derrière la vitre. Double chant qui tue et qui sauve quand le silex de la foudre perce l'écorce crânienne. J'écoute seulement le temps. Le poème déroulé au fond d'une pensée, tout est affaire de nudité. Par miracle, elle court sa chance. Il ne lui reste que le jardin et ses abeilles. Sa biographie interrompue au bord d'un miracle. Son compagnon, amateur de trappe, passe sa vie à circuler dans l'invisible. Brise du soir, une tête d'enfant tourne dans tous les sens. Mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-elle sans toi, sans elle? Il faut attendre la nuit. Louis trompe la certitude comme une femme captive de ses tatouages. Elle dit par folie, si j'avais une pomme, je guérirais, même une pomme vomie. Et ceux qui ne comprennent pas mourront sur le chemin des douaniers, profusion du réel, incendie de l'espace et du temps. Fermez les yeux pour en finir avec le culte des morts, tendu comme l'arc d'Ulysse. La ligne d'horizon mesure son ombre, autour d'un secret très réfléchi, vague coulisse de la réalité. Tout est à l'intérieur de tout, le feu dans le feu, le moulin dans le moulin, un mort dans un mort, la maison hantée dans la petite fille qui garde tout. Les manuscrits flambent, les années partent en poussière, qui viendra nous sauver? J'ai manqué de regard, je meurs d'aveuglement sur le bord d'un tapis de Byzance. Les iris tremblés de l'air n'ont plus de parfum. Mes yeux se ferment sur d'autres yeux qui roulent au fond d'un puits de lave. C'était avant que le temps s'emporte, quand la mémoire se confondait avec la lumière et les ombres, avec ces choses arrêtées qu'on croit voir. La nuit, tes oublis, la neige sur un pont. Passé le seuil de la porte, les jongleurs inventent l'univers. La tête et les os voyagent, face contre terre, vaste pays. L'instant sculpte la statue du torrent et des nuées. Je vais retrouver les héritiers de ma gloire et de ma fortune, disait Catherine Mansfield à ses seins putréfiés. Cavales et hippocampes m'entraînent dans la grande forge aux métamorphoses. Ces monstres sont les témoins de nos fautes les plus secrètes. L'illusion entre. À quoi sert de rêver? C'était dans une ville inconnue. Des gens m'interpellaient, je ne savais pourquoi. À la fin, on me demanda de rendre un objet, quelque chose d'important, auquel les gens de cette ville tenaient terriblement. Ils se firent menaçants. Un premier coup tomba. puis ce fut la ruée, secousses et percussions, vieilles danses de Lynch. Mais je n'avais pas l'objet, j'étais à genoux. Ils continuèrent jusqu'à me vider de mes organes. Une femme très belle cria « Ça y est, je l'ai !» en brandissant une sorte de gésier de poule gonflé de petits cailloux. Elle l'ouvrit avec les dents, je sentis alors un apaisement prodigieux. La poche était vide et siffla bizarrement. Quelqu'un jeta sur moi un drap noir. Aveuglé, je songeais qu'il était trop tard. Inutile de s'expliquer davantage, puisqu'il faut que quelqu'un veille à minuit moins quart. « Comédien !» lui dit-elle encore, sans comprendre qu'au fond de son néant, il brûlait ses ultimes effets de réalité. « Et qui donc ferait l'inventaire du temps perdu, ces éternités passées au fond de l'eau, sous les horloges nourricières ?» Un réverbère en face répand sa lumière. Une hache décapite les heures par léger anachronisme. Couleur, violence de la vérité. La lumière est la cambrure d'un dieu. C'était un homme très grand et sombre. On ne voyait jamais ses yeux. Il portait toujours un même masque d'abîme. On l'appelait le dispensateur de figures. Pourtant, il avait les mains vides. On n'entendait jamais sa voix. Mais quand on l'avait vu une fois, on le cherchait partout des yeux. On se tournait à tout moment. On courait même après son ombre. L'inconnu ne se montrait jamais deux fois. Un jour, forcément, l'œil se glaçait dans un miroir. C'était lui, c'était personne. Dans un rêve, il reviendrait pour nous arracher le masque, vendez-le-moi, même au prix de la chair. Je ne voudrais pas être une ombre. C'est ainsi qu'une fois dans la vie, j'aurais acheté ma propre face à un escamoteur muet dont on ne voyait jamais les yeux, pour qu'elle ne puisse m'oublier. Elle et ses deux visages, elle et ses quatre yeux. Nous ne nous sommes jamais revus, regardez, moi, yeux, nuit tranchée. La demoiselle louche portait un bandeau noir, son âme visait en moi la nuit farouche. J'ai découvert sa porte un soir, à minuit moins quart. La vérité engrange le sable des statues dans ses coffres de sel. Vent de l'instant, est-ce la mort? J'irai dans la lumière aiguë. C'était une jeune fille comme une autre, elle m'a laissé, je l'ai quittée, jamais l'ai-je regardée si bien en face. Ange écorché, beau souvenir. Peut-être c'est tout. Non, j'ai amené tout ça, mais c'est bon.
Notre prochain écrivain invité est croate. Drašen Katunaric est né en 1954 à Zagreb, où il a terminé ses études secondaires avant d'aller étudier en philosophie à l'Université de Strasbourg. Il a ensuite occupé divers postes dans l'édition, dans des revues littéraires, dont l'édition croate de la revue Le Messager européen. Puis il sera successivement rédacteur de la prestigieuse revue La Lettre internationale et de la revue anglophone Most de Bridge. Animateur de rencontres littéraires, il a aussi été vice-président du PEN Centre croate de 2001 à 2006. Depuis 1980, il publie poèmes, récits de voyage, pièces de théâtre, romans et essais. On compte une vingtaine de livres de poésie. Ses poèmes sont traduits dans une dizaine de langues. Il a lui-même présenté plusieurs anthologies de la poésie croate contemporaine en France, à la revue Europe en 2002, aux éditions Caractère à Paris en 2003 et dans la revue Autre Sud à Marseille en 2009. Drašen Katunaric a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix du Cercle européen en 1999, et il a été décoré de l'Ordre des arts et des lettres de France. Parmi ses nombreux titres, retenons un essai intitulé « Au nom du barbaro-génie » paru en 1995 et « Underground de Costa Rica ou la nostalgie de l'âme slave » dans la revue Esprit en 1997. Il a fait paraître un livre en anglais à New York, « Cherries », chez Blue Astor Press. En 2004, on put lire au moins 3 de ses ouvrages publiés en français, soit un recueil de poèmes, « Ciel-Terre », paru chez l'Arbre à Parole, en Belgique, un recueil de nouvelles, « Le baume du tigre », à Bruxelles, ainsi qu'un roman, « La mendiante », paru aux mêmes éditions, en 2012. Dans ce roman, louangé par la critique, le narrateur, peut-être à la recherche d'une mendiante qu'il croit être la femme qu'il a aimée, en même temps est-il en quête de l'énigme de sa propre folie, une sorte d'Orphée qui serait cruelle envers son Eurydice, point d'interrogation.
Bonsoir. J'ai choisi quelques poèmes pour lire ce soir. Et le premier s'appelle Sphinx. Je suis là. Je me trouve là dans ce poème pour dire le plus de fois possible le mot Sphinx à haute voix. Sans tenir compte de l'état actuel des choses, du gouvernement qui gouverne à présent, le sphinx est là. Un message secret sur ses petites pattes, assis sans bouger dans le temps. Sphinx, je ne l'ai jamais assez savouré, jamais jusqu'au bout. Sphinx femelle, je lui ai cherché des viatiques. Je lui ai cherché un mari, une bonne dot. Sphinx, je lui ai cherché des viatiques pour l'éternité. Sphinx, après sa mort, j'ai cherché ses citations. Sphinx, que me dira-t-il d'énigmatique, puisque j'ai connu l'amour, encore un sphinx, puis un autre sphinx, sans nez pour la vieillesse. Pendant les préparatifs pour la séparation, en vue du grand voyage. À chaque instant, le sphinx est le sphinx. Je veux dire la vie, je veux dire le ciel, je veux dire la foi. Je le souleverai si lourd en porphyre vert égyptien. Je le hisserai jusqu'à un endroit sûr, jusqu'à mon trône, pour qu'il regarde au loin et se taise, pour qu'il regarde au loin et se taise. Tes frères courent au pays de Chronos, leurs pas sont comptés, leurs ombres jointes. Ils jouent pour eux-mêmes aux jeux vidéo, solitaires, sans parole, vérifient leurs messages et courent à nouveau. Tes frères ne veulent connaître ni joie ni tristesse, ni amour ni haine. Ils courent sans grands efforts, les muscles bandés, l'allure uniforme, leurs pas sont comptés. Tes frères sont devenus sourds pour les mots prononcés. Ils ôtent leurs écouteurs, le visage surpris, hochant la tête dans l'embarras du silence. Tes frères courent en basket, vérifient leurs messages et à nouveau courent au pays de Chronos, leur léger sac à dos bourré de mépris. Tes frères courent et nomment vie cette course, sans toucher des coudes leurs hanches, silencieux, graves, absents. Leurs pas sont comptés, leurs ombres allongées. Compilation. J'ignore d'où souffle la tramontane, de gauche ou de droite, pour me vibrer aux oreilles. The answer, my friend, is blowing in the wind. Pose la tête sur mon épaule Écoute la musique de l'été, les oiseaux sont proches, ils nichent autour du clocher de l'Odève, et volettent alentour. En bas, le cœur frappe les heures, songeant à l'impossible. Entends-tu dans l'air cette vieille mélodie? Che colpa ne ho se il cuore un zingaro e va. À l'été 2010, j'ai rencontré un tzigane en chemise noire avec une marque blanche sur le sommet du crâne. Il a fait pleurer nombre de femmes et d'hommes timides en jouant à l'accordéon. Catene non ha il cuore un zingaro e va. Le cœur est doux et âtre. Cette fois sucré d'amande, tu ne le nettoieras pas sans te poisser les doigts entre do et fa. Au cœur, il ne suffit pas d'arracher les heures passées. Il veut les couler dans un peu de vanille et livrer à l'oubli. Et si fermera, qui ça? Et si fermera? Qui ça? Maintenant, un poème que j'ai nommé Lettre, mais comme on a ce colloque sur l'événement, alors je le dénommerai en événement. Naguère, les parents de Dominique Petrich de Scripp ont reçu une lettre leur annonçant que leur fils était mort dans le naufrage du Nioba, près de Caracas, au Venezuela. Et pourtant, peu après, son père l'a rencontré à Split, sain et sauf, et lui a dit qu'on le pleurait à la maison. Tous deux sont allés à la grande poste envoyer un télégramme à la mère pour lui apprendre que Dominique respirait à plein poumon. S'il n'avait fait pas si froid cette nuit-là, auraient jailli les premiers bourgeons. Age. Age est un petit animal fossile qui vit dans l'obscurité d'une cruche, suspendu à une corde comme un seau d'eau, par la peau, la forme, semblable à la fois au crocodile, au lézard et à la tortue. Il pend immobile. La nourriture et la lumière lui sont nuisibles. Il goûte une ration dérisoire en novembre et décembre. Et c'est pour toute l'année. Il ne s'expose au monde que lorsque les gens le découvrent dans la cruche, soulevant le couvercle par un pur hasard et regardant au fond. Sur lui-même, il en sait plus que tous. À nulle créature et encore moins à l'homme ne viendrait à l'esprit de troubler l'harmonie dans le fond étroit, de chasser âge de sa cruche. En vieillissant, il apprécie de moins en moins que les curieux le découvrent, et dès qu'il sent la lumière sur sa peau rugueuse, âge se hérisse dans le puits à sec. « Brave Jean, ne me hissez pas avec la corde, en bas je n'y suis pas. » Il reste encore quelques mots intacts. Mais eux, indiscrets, le hissent quand même, car âge vient avec les années. Jouant sur les mots, les titis la pensée qu'ils verront quelque chose d'irréel, de rugueux, d'indigent et de triste, même s'ils font mal à l'animal. Et âge, en pleine lumière, est le même qu'âge dans l'obscurité, le même. Seuls les mots sont restés au fond sacrés. Je reste de plus en plus longtemps dans la mer. De plus en plus longtemps, je reste dans la mer, dans l'innocence. Il fait chaud jusqu'au coucher du soleil, quand l'Occident s'empourpre et que les hirondelles deviennent folles de bonheur. Elles devancent les cieux. Je reste de plus en plus longtemps dans la mer, à jouir de chaque vague, douce comme des courgettes en rondelles, à l'huile d'olive, parsemée de persil, d'ail et de basilic. Je reste de plus en plus longtemps dans la mer, à me réjouir du coup de rame écumant et de son sillage. Trouverai-je de mes propres yeux un souvenir sur l'étendue du sable, parmi les herbes du fond. Dans chaque ombre, il y a quelque chose du sédiment d'un rêve. Je reste de plus en plus longtemps dans la mer, à regarder les baigneuses violettes sur les rochers, les mouettes au front oblique, un poisson en travers du bec, le palais peint sur une surface étincelante. Je reste de plus en plus longtemps dans la mer, en quête d'apaisement, dans mes oreilles teinte l'écho des jours et des cris joyeux. J'écoute l'homme de chez moi, de plus en plus longtemps jusqu'à la nuit. Je reste dans la mer. Je ne sais pas si j'étais passé. Je regarde. Ben, j'en ai encore deux. Bon. Psaume sur l'innombrable. Sur une île, je vis 300 chèvres et 30 boucs, une multitude de brebis, 4000 courbets, des centaines de béliers fougueux, 80 ânes et 10 ânes tristes, 735 chevaux, 2 au trot, de leurs mulets, 246. Des troupeaux innombrables, mais aucun berger. Avec un âne, je me trouvais face à face, l'un et l'autre confrontés dans une étable obscure. Après cette vision, je me mis à chanter. Je regarde ton île, Dieu inconnu, et je m'agenouille devant l'œuvre des yeux. Je regarde ta terre rouge, œuvre de tes pieds blessés. Je regarde tes arbres vigoureux, œuvre de tes poings et de tes ongles. De rien tu ne dois avoir honte, ni du cimetière, de l'éboulement, du squelette, des pommes de pin inutiles, ni du figuier stérile dans la pierraille, ni des estropiés ferrois, ni des eaux qui tremblent dispersées sous la terre et chantent les louanges du Seigneur, ni des ânes qui se regardent les yeux dans les yeux, seuls avec les hommes, seuls avec toi. Et puis, la dernière, c'est, elle est, peut-être quelqu'un le connaît, elle est dédiée à Jean-Luc Vautier, récemment décédé. Il était, je crois, aussi à Trois-Rivières. Je l'ai connu. Messe sur le web. Tu crées le web car le bon Dieu te crée incessamment. Le temps survole le web. On fourche le long jour de ta solitude. En bas sur le web, tranche le sexe de Chronos pour te sentir éternel. Messe sur le web, pour une intention de l'hostie tombée, des lèvres languissantes. Sur le web, la voix d'une fille mouille la plante de tes pieds. Elle chanta profane et sacré. Et si une seule fois, je te touchais et effleurais ta robe ocre, mon cœur serait entier, toute plaie disparaîtrait. Ida te jednom dotaknem, ido dirnem ti haline, moje srce bilo bi cijelo i sve rane bi nestale. Ô Dieu, je te reconnus sur le web, par l'odeur du lait, le sourire candide, un battement de cœur pur. Tu as rompu le web en deux et m'as tendu le pain qui embaumait encore, les épis dorés au soleil, m'as tendu un verre de vin rouge qui m'a enivré d'amour. Merci.
Alors, merci, Drachen. C'était très beau. Poète, romancier, essayiste, Paul de Brancion a fait des études de philosophie Il a été professeur de linguistique et de philologie romane. Il a publié de nombreux articles sur Léris, Bataille, Derrida, Barthes, Arthur, Roussel, entre autres. Il a vécu 10 ans en Scandinavie avant de s'installer à Strasbourg, où il écrit son premier roman, Le Château des Étoiles, une biographie romancée de l'astronome danois Tycho Brahe. Il fonde ensuite à Paris la revue Sarrazine, dont il est toujours le rédacteur en chef. Paul de Brancion est président et fondateur de l'Union des poètes et compagnies. Par ailleurs, il s'implique régulièrement dans des projets artistiques transversaux, notamment avec des compositeurs de musique contemporaine. Ainsi, son poème intitulé « Vent contraire », publié chez Dumerché, a-t-il inspiré le compositeur Gilles Cagnard. Il a publié chez Fayard en 2014 un livre d'entretien avec Pierre Bergougnoux intitulé « La pensée et négation » sur l'histoire, la culture et la politique. Parmi ses livres de poésie publiés chez Lanskine, notons « Le marcheur de l'oubli », inspiré de l'âpreté de la terre corse, « Tu, rare », des poèmes graves qui évoquent la maladie et la place de l'écriture pour apprivoiser la peur, et enfin aux éditions Bruno Doucet, « Ma mort est morte », en danois, M-O-R, mort, signifie « mère ». Enfin paru en 2013 sous le titre « Qui s'oppose à l'encart est un cadavre », ce livre nous propose un voyage au Cambodge d'aujourd'hui, pas encore, à peine sorti de son passé. Ce texte poétique, suivi d'un livret d'opéra, s'affronte à l'incarcération, la torture, l'enfermement. Il traite des crimes contre l'humanité perpétrés par les Khmers rouges, souffrance d'un peuple qu'un peuple s'est infligé à lui-même. Paul de Brancion vit et travaille entre Paris, la Corse et Nantes. Paul.
Merci beaucoup d'abord de cette présentation. Tout à l'heure, enfin, on parlait de ce qu'il fallait lire, et Daniel m'a dit, mais lis un tout petit peu d'un roman. Alors, je vais lire un tout petit peu d'un roman, si vous m'autorisez de ne pas le compter sur le temps de la poésie, je vais en lire très très court. Le Château des Étoiles, donc. Je ne sais pas si on m'entend, ça va, oui. Rasmus Naki, poète, sujet, identificateur. Noir, il faut savoir que noir fut la nuit et le silence qui s'ensuivit, bouleversé de voir apparaître ce fils de l'étrange astronome, le cosmos, enfrémi jusqu'aux limites de l'univers. L'histoire de son père sera narrée ici comme un conte réel, évoquant au travers de l'erreur la félicité d'un puissant et douloureux destin. Il faisait sombre. La mer s'était retirée depuis bientôt 10 heures de la nuit. La demeure de Tycho Brahe, seigneur de Vein, astronome au royaume du Danemark, était restée illuminée. Un enfant devait naître au cours de cette nuit. Le mage l'avait précisément indiqué dans le livre de l'île. Déjà, la mère était prise de douleur. Le père tournait et retournait dans la grande salle du rez-de-chaussée du château de Uraniborg. La servante veillait près des linges propres qu'elle avait fait bouillir et rebouillir pour l'occasion. Le page dormait près du chien. Dans sa chambre, la mère roulait des yeux furieux, tant sa colère était grande d'avoir eu depuis 9 mois à porter ce fardeau. Elle n'avait pas voulu ce 13e enfant. Elle ne supportait pas d'être grosse. Elle haïssait sa condition de femme et puis elle était seule. Seule dans sa douleur, seule dans sa rage, plus personne ne s'intéressait à elle après les 12 garçons qu'elle avait mis au monde. Magnus, Egon, Jürgen, Egil, Lars, Henrik, Torbjörn, Hilfredrik, Fried, Klaus, Kjol et Kasper. Elle savait déjà que ce dernier enfant qui allait venir, qui était déjà presque là, serait un garçon. Plus que toute autre chose au monde, Tycho Brahe, son mari, désirait que ce soit une fille. Une fille, il serait contrarié, son courroux risquait d'être terrible. Une fille, ça n'était pas possible, car Aouned aimait le sel et ne s'en privait guère. Voilà. Il y a un changement. Ma mort est morte. Un coup bas. An expected dirty trick. Min morte is installed after long disease, Maeve Pin. Elle se faisait soigner d'un cancer, mais elle est morte du cœur sans trop souffrir. She passed away, et depuis lors, les marches du temps n'ont cessé de déserter en rase campagne. When rats jump, ship and captain is still drinking his glass of sherry in the cabin. Min situation ha ene sig bagefter, for de omgivelserne blev fuldstændig gale. De blev hysterisk. Tout un édifice ignorant les mots venait de s'effondrer. Les fondations ne s'appuyaient sur rien de solide. It was necessary to rebuild using a new language, une nouvelle motivation. It's very difficult suggesting to settle a fairly new communication with used materials. Devaman tvongutil. Nous ne savions pas faire vite et le tic-tac du temps nous harcelait. Sisters were old, brother alone, more dead, and the aging father not yet senile. Tic-tac, lude klokken, tic-tac. Un coup bas, un coup de jarnac inattendu. La mort de ma mère dans son fauteuil après une longue maladie, douleur de l'estomac, douleur du ventre. Elle se faisait soigner d'un cancer, mais elle est morte du cœur, sans trop souffrir. Elle est passée de l'autre côté, et depuis lors, les marches du temps n'ont cessé de se déserter en rase campagne. Lorsque les rats quittent le navire et que le capitaine est toujours dans sa cabine à boire son verre de sherry. Ma situation a changé après parce que mon environnement est devenu fou furieux. Ils sont devenus hystériques. Tout un édifice ignorant les mots venait de s'effondrer. Les fondations ne s'appuyaient sur rien de solide. Il était nécessaire de reconstruire avec un nouveau langage, une nouvelle immotivation. Il est très difficile de se proposer de rétablir une communication avec des pauvres matériaux usagés. C'était pourtant à cela que nous étions contraints. Nous ne savions pas faire vite et le tic-tac du temps nous harcelait. Les sœurs étaient vieilles, le frère était seul. Moore était morte et le vieux père, pas tout à fait sénile encore, tic-tac, lancine la pendule, tic-tac. Alors, troisième chose que je vais lire, peut-être un peu plus conséquemment, c'est qui s'oppose à l'Angkar est un cadavre, donc sur le Cambodge. Ce livre évoque le Cambodge sous les Khmers rouges. Il est suivi d'un livret d'opéra intitulé Kim Horn. L'épisode Khmer Rouge a été terrible. Une nation a choisi de s'auto-mutiler, un corps social de détruire une partie de lui-même, détruire le peuple des villes. Mais citant Vuming, je dirais, chez les Khmer Rouges, la loi c'était la nuit et le peuple Khmer a été défait. Cependant, aucune défaite n'est définitive, aucune victoire non plus. Il y a toujours quelque chose qui échappe au plan du pouvoir et donc de l'atrocité. Il y a toujours quelque chose et quelqu'un qui déserte, qui réussit à s'échapper. Aucune défaite n'est jamais totale. Le coq chante dès avant l'aube. Les moines de la pagode psalmodient, un bruit de moto, de chien, matin frais, laiteux, les grillons se taisent, enfin. Tu ne dois pas considérer que ton corps t'appartient, ni même qu'il est soumis à ton esprit. Tu dépends uniquement de celui qui a décidé, et son jeu seul importe. Silence lourd de mort. La forêt, quelques oiseaux, pierres de latérite noire érigées, sculptées. Au loin, le cri des ouvriers. Cambodge. Le Barail est devenu forêt luxuriante, paix suspendue. Traces de balles sur les gardiennes du temple, Devata, les seins gonflés, pubis éclatés, devenus cibles d'entraînement. Paradoxe de ces monuments admirables, fruit de la crédulité, de l'asservissement, la jungle a tout absorbé. La compassion apporte une note de lumière. Au reste, il suffit d'appeler la vengeance du temps. Les grands arbres étrangleurs se chargent de mettre à bas les temples, oublient des valeurs d'humanité. On s'attend à voir les ombres des mauvais défunts surgir à tout moment dans la luxuriance, fatiguée. Qui pourra accuser ce qui n'a laissé aucune trace visible? Elles ont été effacées, détruites, et les coups si bien calculés qu'il ne subsiste rien, hormis le corps supplice qui sait à l'infini et se souvient des rendez-vous avec le tortionnaire. Problématique de l'humain, en dépit du monstre, jusque dans l'horreur. Le roi des macaques se faufile furtif. Perché derrière la maison du feu, à l'orée de la nuit khmer, un chapeau rouge rappelle le sang des effrayants. Ce sentiment de fermeture absolue, sans appel, m'est intimement connu depuis l'enfance. Je sais le sens de l'air, devine assez bien l'idée de liberté. Choix de marcher, d'être sans entrave, sans pour autant estimer possible d'en jouir. Cette nécessité de rendre compte de tous mes actes reste définitivement ancrée en moi. Je suis tributaire d'une exigence féroce à quoi je dois me plier jusque dans les événements les plus simples de ma vie. Tristesse du soir, aux nuages gris sur les rizières. Les phares s'allument sur la route numéro 7 qui mène à Kampong Cham. Avons chanté la Marseillaise entre deux zébus entravés devant les enfants du village, stupéfaits. Trois femmes mâchent le bétel. Le soleil peut-il se coucher sur le Cambodge sans évoquer le sang des hommes noirs? Il n'y a plus de singes dans la forêt noyée. Ville lacustre, Mekong, loin du renversement de la mousson, l'eau haute, la pêche possible. Habillé de lin blanc sur un vieux bateau de bois coloré, les liserons d'eau dense, les enfants sautent dans le fleuve, nudité ambrée, père, mère, grand frère surveillent les filets. Bouteilles de plastique en flotteur de fortune, deux mondes se croisent. À la saison humide, les poissons mangent les fourmis. À la saison sèche, les fourmis mangent les poissons. Disent les Khmers. Les enfants saluent en criant. Sautant de joie, les plus âgés vérifient sans mot dire l'équilibre de leur barque, que le remous va chahuter.
Thank you.
plus tard le bruit léger des belles rencontres, plus tard les poignets cernés par l'amour, plus tard le livre comme un oiseau blanc, plus tard le culte des innocents, plus tard le livre comme un oiseau blanc, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Au moment de la grande éclipse, au moment de la grande clarté, les éclats de lune répandus sur le soleil et les traits de plumes sur les murs froissés. Beaucoup plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Très rouge, rapide, cruel, et plumes d'hirondelles, immobile au sommet des taudis pour entretenir le bleu des toiles, pour supporter le toit absent, longues absences d'autrefois, d'aujourd'hui et de toujours. Beaucoup plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, le ciel déchiré de cris, déchiré comme une aile. Beaucoup plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Au moment de la grande éclipse, au moment de la grande clarté, les éclats de lune répandus sur le soleil et les traits de plumes sur les murs froissés. Beaucoup plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Enfants nus, plus tard le bruit léger des belles rencontres, plus tard les poignets cernés par l'amour, plus tard le livre comme un oiseau blanc, plus tard le culte des innocents, plus tard le livre comme un oiseau blanc, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Au moment de la grande éclipse, au moment de la grande clarté, les éclats de lune répandus sur le soleil et les traits de plumes sur les murs froissés. Beaucoup plus tard. Plus tard, plus tard, les traits de plumes sur les murs froissés. Beaucoup plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard.
Merci Thomas Hellman et permettez-moi de souligner qu'il a publié un livre-disque de ses poèmes chantés de Roland Giguère. Le livre a été mis en scène, mis en page par l'artiste et poète Louise Marois et Louise et Thomas ont mérité un prix Charles Cros. Alors, merci à nos écrivains invités, Michael Gluck, Alvaro Uribe, qui nous a valu aussi la présence de M. le consul du Mexique, qui était parmi nous ce soir. Merci. Yam Yared, Hubert Haddad, Drachen Katunaric, Paul Dobrancion. Nous avons bien noté en vous écoutant que chacun, chacune de vous écrit contre les violences du monde. Nous vous lirons. Nous remercions la librairie Le Port de Tête qui a réuni une table de vos ouvrages à l'arrière. Enfin, merci à Radio Spirale qui capte l'événement de la 43e rencontre. L'Académie des lettres vous invite maintenant à prendre le verre de l'amitié, de dialoguer avec nos écrivains invités. Alors, bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci.
Radio Spirale.